Sur la session de définition, donc, il nous reste une deuxième partie sur la biologie. Donc, la première partie, c'était le code du vivant. La deuxième partie, c'est la plasticité du vivant. Et donc, c'est Marc-André Sellos qui va nous faire cette présentation.
Alors, je ne vais bien sûr pas vous parler de qu'est-ce que le vivant, parce que je fais partie des gens qui n'en savent rien. Mais ce que je voudrais, c'est pointer du doigt une certaine évolution qui a eu lieu dans nos représentations du vivant. Et en particulier dans le sens d'une plus grande plasticité. Et je voudrais commencer par quelques propos autour de l'espèce et du fixisme. Mon premier point revient à une formule qui a souvent été employée aujourd'hui, cette notion de reproduction, en particulier de reproduction de l'individu. Il n'y a pas de reproduction à strictement parler au sens d'une copie identique. Et même si d'ailleurs cette notion de copie identique a parfois été envisagée, hein. D'abord, la reproduction sexuée, on le sait très bien, elle ne produit pas des descendants identiques. Nous savons par nos enfants ou par nos parents qu'il existe quelques différences. Et la première chose qu'un individu qui se reproduit de façon sexuée fait, c'est de bazarder la moitié de ses gènes. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi imaginer une reproduction asexuée qui, là, est basée sur des processus plutôt mitotiques et qui pourrait, en première approximation, reproduire à l'identique. Mais il s'accumule des mutations. Et sur un certain nombre de générations, ça finit par faire des différences. Et paradoxalement, justement, une reproduction purement asexuée, c'est perdre l'espoir d'une réversion, parce que si vous avez un génome qui, alors on prend un génome diploïde ici, qui a accumulé des mutations sur une copie de chacun des deux locus A et B, eh bien, l'espoir le plus rapide de restaurer des individus avec le génotype ancestral, AABB, c'est une recombinaison. C'est un processus, par exemple, méiotique, qui restaure la coexistence de deux copies d'origine pour les deux locus. Bon, quoi qu'il en soit, donc, lors de la reproduction, il y a un changement. Et quelque part, il faut éviter une vue fixiste de la reproduction qui considérerait que l'organisme se reproduit. En fait, il reproduit ses gènes, et en fait, même certains de ses gènes, sans plus. Y a-t-il dès lors une pérennité de l'espèce ? Alors, évidemment, je pense que beaucoup d'entre vous sont convaincus que non, mais il faut bien voir que cette idée-là, elle traîne dans beaucoup d'ouvrages pédagogiques, qu'on ne cite pas pour des raisons évidentes de courtoisie, à savoir qu'effectivement, la reproduction assure la continuité de l'espèce. Bon, et puis, elle existe aussi dans le grand public. J'ai mis un exemple, j'aurais pu en mettre beaucoup. Qu'en est-il de la pérennité de l'espèce ? Les géologues nous ont enseigné que quand ils peuvent suivre une espèce dans le temps, on la voit changer. Par exemple, ici, pour un paramètre de taille de fossiles d'ammonites, on voit très bien qu'au cours du temps, sur l'axe des ordonnées, on voit changer le paramètre qui est reporté sur l'axe des abscisses. Il change, et puis d'ailleurs, des fois, la courbe devient bimodale et on peut assister à des processus de spéciation. Cladogenèse et anagenèse, c'est des noms qui sont parfois utilisés, ce sont deux choses qui arrivent dans le temps à l'espèce, ce qui fait qu'elle n'est absolument pas la même le lendemain. Et puis, aussi, et de façon triviale, et ça c'est encapsulé dans ce diagramme qui est le seul dessin de l'origine des espèces de Darwin, de façon triviale, il y a aussi des extinctions. On a des fois des voies de garage, c'est-à-dire des organismes qui n'auront pas de descendants. Donc, des espèces éventuellement peuvent s'éteindre. Spéciation, changement plus ou moins continu de l'espèce ou extinction, voilà le panel qu'on a au moins, et vous verrez qu'en fait, il y a plus. Dans cette idée que l'espèce change, il y a un facteur important à prendre en considération, c'est qu'elle est obligée de changer parce qu'il y a quelque chose dans son environnement qui change, ce sont les autres espèces. Et je voudrais m'arrêter deux secondes sur la reine rouge. Alors, c'est un modèle qui a été un modèle évolutif qui a été proposé par Van Valen en 1973. Je vous encourage fortement à vous procurer le manuscrit, enfin l'article qu'il a publié dans une revue qu'il a fondée pour l'occasion. Je vous encourage à vous procurer cet article qui est vraiment intéressant parce qu'il ne dit pas du tout ce que je vais dire. Il ne dit pas du tout ce qu'on en retient. Et d'ailleurs, il est assez étrangement écrit. Mais en tout cas, l'idée de Van Valen, c'est d'accumuler tout un tas de données compilées où on voit des courbes d'extinction partant au départ du nombre d'espèces cumulées jusqu'au nombre d'espèces actuelles. Alors c'est un peu compliqué comme représentation de courbe, mais tout est compliqué dans cet article, à mon sens. En tout cas, l'idée, c'est que vous avez des pentes ici qui sont plus ou moins continues et qui montrent que l'extinction est un phénomène continu dans tous les groupes qu'il étudie. Vous déployer des arthropodes ou mammifères. Et finalement, il y a donc une sorte de loi qu'il établit que les espèces s'éteignent perpétuellement, même en l'absence de grands changements du milieu. Et il établit le modèle de la reine rouge. Alors il l'établit d'une façon qui est assez ambiguë à mon sens, mais aujourd'hui, ce que l'on considère, c'est qu'en fait, l'adaptation aux autres organismes qu'il y a autour, les parasites, mais aussi les mutualistes ou les commensaux qui, à un moment, peuvent commencer à vous endommager, nécessite en permanence une évolution. Et que cette course poursuite entre les organismes en interaction s'enraye parfois lorsqu'apparaît d'un côté ou de l'autre un organisme qui gagne la partie et qui conduit à l'extinction son parasite ou son hôte. Et donc l'idée, c'est qu'il faut perpétuellement évoluer pour s'adapter aux autres organismes, même si le milieu ne change pas. Donc nous avons ici, dans le domaine biologique, une forte pression qui s'oppose évidemment à la pérennité de l'espèce, ou en tout cas à son intégrité. Dès lors, peut-il y avoir des fossiles vivants ? Alors, la réponse est partiellement oui. J'appartiens à une institution qui en présente, dans la galerie donc, des animaux disparus ou en voie de disparition. Mais on réalise bien qu'il y a quand même un problème conceptuel là. Hein. L'idée du fossile vivant, c'est qu'il y aurait des organismes qui n'ont pas changé depuis X temps. Et ça, c'est en contradiction flagrante avec ce que je viens de dire. Il y a beaucoup d'exemples d'organismes qui ressemblent beaucoup aux formes fossiles. Je vous présente ici le sélacanthe. C'est tout à fait fascinant à quel point ça ressemble. Ça ressemble d'ailleurs tellement que quand il s'est agi de discuter des nageoires pelviennes pour représenter l'évolution des membres, et notamment la transition vers les membres des tétrapodes, eh bien, comme on n'avait pas de très bonnes images ou de très bonnes représentations sur les fossiles, on s'est tout simplement dit, on va regarder sur les formes actuelles, c'est sans doute pareil sur les formes fossiles, et les livres d'enseignement sont pleins de cette histoire qui étudie finalement ce genre de membres comme l'ancêtre, une sorte de fossile vivant, hein, qui serait l'ancêtre des... cette nageoire, pardon, qui serait l'ancêtre donc des membres des tétrapodes. Il y a eu de l'évolution, et malheureusement au niveau des nageoires, et des fossiles très bien conservés, trouvés en 2007, ont démontré que ce n'était pas du tout pareil chez les fossiles, au moins chez les fossiles étudiés, et qu'il faut considérablement revoir les théories qu'on a sur l'évolution des membres, parce que effectivement, il y avait eu évolution, le sélacanthe n'est pas un fossile vivant parfait, et donc de ce point de vue-là, les formes actuelles ne pouvaient pas nous permettre d'inférer ce qu'étaient les nageoires des formes fossiles. Il faut aller voir les fossiles. Bon. Donc les fossiles vivants peuvent être trompeurs, et puis de toute façon, ils ne nous parlent que de la forme. Or, il y a plus que de la forme dans le vivant, il y a tout un tas de propriétés physiologiques aussi qui, elles, ont pu largement changer, éventuellement sans affecter la forme. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce problème de la persistance actuelle de choses réductibles à des choses du passé colonise d'autres sciences. Et bon, je n'ai pas voulu trop parler d'un musée, mais j'ai trouvé cet ouvrage sur les arts premiers là, qui récapitule cette idée qu'il y a des civilisations ou des cultures qui sont identiques et qui n'auraient pas beaucoup changé à ce que fut l'état antérieur premier. En fait, c'est probablement la même chose et pour les mêmes raisons, les sociétés évoluent comme évoluent les organismes. Et avec Georges Augustin, nous avions écrit un article dans une revue, la revue Espèce, pour raconter un petit peu en quoi finalement, pour la même raison, il n'y a pas de société primitive et pas d'organisme primitif. Bref, il n'y a pas de fossiles vivants, ni dans le domaine des sciences de l'homme, ni dans le domaine des sciences de la nature. Bien, arrivé à ce point, ce que j'ai voulu souligner dans cette première partie, mais qui va sans doute vous paraître assez évident, c'est l'absence de stricte reproduction de l'individu, qui permet d'ailleurs la variation de l'espèce, et donc qui donne une possibilité d'évolution. D'autre part, j'ai voulu souligner l'importance des interactions biotiques, au moins, pour constamment conduire les espèces à changer et les individus à s'adapter. Et finalement, on a l'image de cette transmission verticale et finalement plus ou moins exacte de l'information génétique entre des mutations, des recombinaisons et de la sélection qui permettent l'évolution et qui donnent donc une forme de plasticité au vivant. Alors après ces propos qui sont plutôt liminaires, je voudrais confronter un petit peu la notion d'espèce à la notion d'hybride. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'espèce ? Alors, c'est une récapitulation qui va sans doute paraître à certains d'entre vous extrêmement light, mais bon, il y a plusieurs façons de définir l'espèce, et bien sûr, comme toujours en matière de définition, aucune n'est exacte, aucune n'est vraie, il y a juste des choses plus ou moins pratiques. Alors, historiquement, c'est bien sûr la définition sur l'apparence, la définition phénétique qui a prédominé. On cite souvent, pour montrer les excès auxquels elle peut conduire, ce qui avait conduit Linné, en observant ces deux canards, à les classer dans deux espèces différentes, le canard colvert et le canard de basse-cour. Donc, je ne sais pas très bien si c'est un reflet de la misogynie de Linné ou si c'était vraiment une erreur d'observation, mais en tout cas, il y avait bel et bien deux espèces pour le mâle et la femelle. Ce qui veut dire que l'apparence peut être trompeuse. Cette définition n'est pas si ridicule, car nous faisons tous notre marché quand on demande une batavia ou un saumon, c'est cette définition qu'on utilise, enfin au moins le vendeur, je pense. Et c'est aussi celle qu'utilisent les microbiologistes. Alors, il se trouve que je suis microbiologiste, donc je vais vous montrer une diapo de résultat de mes travaux, qui n'aura aucun sens par rapport à mes travaux. Pour le coup, on étudie la diversité des champignons qu'on trouve dans les racines de certaines plantes. Et on obtient, par des méthodes moléculaires, tout un tas de séquences, et on fait l'approximation que toutes les séquences qui diffèrent par moins de 3% sont de la même espèce. On en fait des unités taxonomiques opérationnelles, et c'est une forme de démarche phénétique sur un caractère moléculaire. Donc, cette définition, elle marche encore, elle occupe actuellement tous mes collègues d'écologie microbienne. Et puis, elle renvoie aussi à la possibilité de stocker l'espèce sous forme d'un représentant, qui en quelque sorte marque sa forme, alors même que comme il se retrouve dans un herbier, il est privé de descendance, et donc c'est un fossile sans descendance, là, pour le coup. Mais bon, cette définition phénétique, elle aboutit à la possibilité de mettre en herbier et finalement de repérer l'espèce. D'un point de vue pratique, c'est pas mal, mais évidemment, d'un point de vue biologique, très souvent, on s'aperçoit qu'il y a plus d'entités reconnaissables que de formes. Et Mère avait proposé cette définition biologique, qui est une définition qui, cette fois-ci, nécessite d'avoir deux individus et de les croiser. Ce n'est plus une propriété vraiment intrinsèque de l'individu. C'est la définition biologique, donc, où les espèces sont des groupes de populations dont les membres sont, en gros, interféconds entre eux et pas avec les autres. Alors, une première remarque sur cette définition, c'est qu'elle est tragique pour l'essentiel du monde vivant. Évidemment, pour pouvoir se croiser, il faut faire de la reproduction sexuée, donc il faut être eucaryote. Et cette définition ne nous parle absolument pas du cœur du monde, ou du monde qui est fait de procaryotes. Donc, il y en a un là qui n'est pas content, parce qu'effectivement, c'est une définition eucaryotocentrique, sinon zoocentrique. Bon, mais cela dit, elle est pratique dans certains cas pour repérer certains phénomènes. Et puis, il y a aussi une définition phylogénétique, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais on peut repérer une espèce comme étant les descendants d'un ancêtre commun. Et quand on a un individu en particulier, on peut voir s'il est dans l'espèce Anas boschas, par exemple, si on dit que c'est tous les descendants de ce nœud, il y sera. Si on dit que c'est tous les descendants de ce nœud, il n'y sera pas. Bien, donc, il y a beaucoup de définitions, évidemment, ça fait beaucoup de définitions qui ne sont pas toujours pratiques dans le même contexte, et de fait, ça montre que, puisqu'on peut de plusieurs façons approcher la notion d'espèce, eh bien, c'est là encore qu'on a affaire à des représentations du réel et pas au réel. Je fais partie des gens qui pensent profondément que les espèces n'existent pas, simplement, je fais aussi partie des gens qui les utilisent pour leur marché ou pour faire de l'écologie microbienne comme des outils pour se saisir du réel. Alors, dans la suite de nos débats, on va faire 13 eucaryotes pour le coup, on va prendre une définition biologique, et pour le coup, le problème des hybrides interspécifiques est un gros problème face à l'espèce biologique, puisque, en fait, ces hybrides interspécifiques, eh ben, au moins quand ils sont fertiles, ils veulent dire qu'il n'y a pas deux espèces, et donc ils ne sont pas interspécifiques, ils sont intraspécifiques. Alors, il y a une galaxie d'exemples, le but n'est pas de les lister tous, mais regardez sur cet exemple, voilà plusieurs voies qui mènent à l'hybridation. Chez les plantes, on a des hybridations simples où des jeux de chromosomes venus de deux espèces entre guillemets différentes se retrouvent dans un hybride simple. Très souvent, ça pose des problèmes de nombre chromosomique et les espèces obtenues ne peuvent se multiplier que de façon végétative parce qu'elles ne peuvent pas passer la méiose. Elles n'ont pas le même nombre de chromosomes dans chaque jeu haploïde. Et ce n'est pas le cas ici, hein, mais dans d'autres cas, on a une hybridation par allopolyploïdie où carrément on a deux jeux de chaque espèce, donc on restaure une diploïdie pour chacun des jeux, on a deux jeux de chaque espèce qui se réunissent dans ce qui est un hybride, mais un hybride qui lui aura un nombre pair de chromosomes et sera donc capable d'aller au travers de la méiose. Bien. Donc, des hybrides, ils s'en fait plein chez les plantes. Il ne faut pas nier qu'il y en ait aussi chez les animaux. C'est une idée répandue que les plantes sont plus propices à l'hybridation, mais on en a chez les animaux. Et je ne résiste pas, à propos de cet exemple, à vous proposer quelques extraits d'un site web que je trouve délicieux, qui par ailleurs est de bonne qualité au niveau biologique, mais vous allez voir que là, il est amusant. Alors, tout commence par une définition des tigrons et des ligrons, qui est tout à fait cohérente. Bon. On nous dit que dans leur environnement naturel, les espèces ne risquent pas de se croiser. Bon. Alors, ce qui peut sembler amusant est en réalité pathétique, nous dit ce site. Ces croisements insolites dans la nature deviennent sordides quand ils sont le fait de l'homme. Créer des animaux dégénérés n'est vraiment pas à l'honneur d'une espèce qui se prétend supérieure. Le discours continue, mais vous allez voir que ça révèle quelque chose. Parce que c'est un discours, vous allez voir, qui est nourri de références. Donc, hybrider, c'est aller à l'encontre de mère nature. D'ailleurs, les hybrides entre félins sont toujours stériles, ce qui est une bonne raison de ne pas persévérer dans cette mauvaise voie. En réalité, seuls les mâles sont stériles. Oui, c'est la fameuse règle de Haldane. Souvent, les femelles ne le sont pas. Alors évidemment, comme elles sont dérégénérées, elles ne pensent même pas à aller se croiser avec un tigre ou avec un lion. Elles ne se reproduisent pas et elles sont des fins de série. Vous voyez, il y a là un raisonnement qui... carrément et de façon évidente erronée, puisque on a des femelles fertiles, et ben elles peuvent très bien se rétrocroiser avec une des espèces parentes et l'histoire continuer. Et puis ça se termine avec ce chiffre sorti donc de travaux de recherche mal localisables, je dois dire, selon lequel il y aurait 1 sur 500 000 hybrides qui survit en raison de différences chromosomiques entre les deux espèces. J'en ai dénombré à peu près 200, des ligrons et des tigrons. Vous imaginez la partout ce qu'il faut pour arriver à faire 200, quand on a une chance sur 500 000 que ça marche, ça veut dire qu'eux non plus n'ont pas bien compris que c'était contre nature. Ce qui se cache derrière, cette idée que c'est contre nature, c'est en fait une idée qui remonte très loin, et sans doute au-delà de Linné, parce qu'elle remonte sans doute à notre vision de la création, mais reprenons les mots de Linné. Dans les Critica Botanica, ce sont des passages que je dois à Pierre-Henri Gouillon, on apprend que toutes les espèces tiennent leur origine en première instance de la main même du Créateur, qui leur a imposé une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. Bon, voilà quelque chose que les tigres et les lions n'ont pas lu. En fait, et dans bien des cas, il leur est accordé de pouvoir jouer avec leur aspect extérieur, mais jamais celui de passer d'une espèce dans une autre. Bon, alors, je ne suis pas en train de dire que cette attitude est ridicule. Je veux vous montrer à quel point elle nous paraît datée, parce que notre vision a changé. Puis je reviendrai après sur le pourquoi de ça. Qu'un jardinier mette soin... à son jardin et il pourra obtenir diverses variétés que le commun des botanistes pourrait nommer des espèces. Mais Linné les distingue des variétés du tout-puissant, qui sont les vraies, car celles du jardinier sont anormales. En effet, les premières persistent et ont persisté depuis le début du monde, et les autres qui sont des monstruosités, vous voyez, c'est le même discours en fait que celui qu'on avait sur ce site web à propos des tigres et des lions, ne peuvent revendiquer qu'une vie brève. Alors ça revient à avoir cette vision fixée de l'espèce, et aujourd'hui, clairement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que ben, on a les hybrides. Et les hybrides, ils cassent la notion d'espèce, et bien plus, ils cassent la notion d'espèce biologique. Les passages sont possibles, les intercroisements peuvent être fertiles, et des fois, les conséquences sont majeures. Allons en Suisse observer des petits salmonidés, donc les corégones, qui vivent dans les lacs suisses. Il y a plein d'espèces décrites. Ils ont des branchies avec des peignes branchiaux où des espèces d'excroissance en forme de dents leur permettent, dans le pharynx, de retenir leur proie. Historiquement, on avait dans ces lacs suisses des espèces qui, dans chaque lac, il y avait des couples d'espèces, l'une de fond, l'autre de surface, génétiquement différentes, dont les tailles de proie n'étaient pas les mêmes, celles du fond avaient des plus petites proies, et d'ailleurs, elles avaient de plus nombreuses petites dents qui leur permettaient de retenir ces proies, alors que celles de surface avaient de moins nombreuses grosses dents qui leur permettaient de retenir des grosses proies. Ça, c'est ce qui fut décrit comme des espèces différentes, sauf que ce qu'on voit maintenant, Eh bien, j'aurais dû mettre 21e ici, je suis désolé. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule espèce, qui génétiquement est un mélange des deux précédentes, dont la taille des dents, entre guillemets, des arcs branchiaux est intermédiaire et dont la taille de proie est grossièrement correspond aux plus grosses proies historiques. En fait, ce que l'on pense, c'est que l'augmentation par érosion, par pollution des lacs, donc l'augmentation de turbidité et l'eutrophisation a rendu ces lacs moins clairs et moins riches en oxygène, provoquant la remontée des espèces de fond et conduisant finalement à un mélange des deux fonds génétiques en une seule espèce. Alors c'est intéressant parce que ça, c'est un processus qui appartient aussi à l'histoire des espèces. C'est un processus de déspéciation. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une espèce. Il y a d'autres exemples. Il y a les ours blancs sont en train de subir des histoires semblables quelque part aux États-Unis. Et ça nous rappelle que la spéciation est un isolement génétique, donc qu'elle ne persiste que quand l'isolement génétique persiste, et qu'il n'y a pas de pérennité de l'espèce. Les espèces peuvent aussi disparaître par fusion, par déspéciation. Alors finalement, l'hybridation donc peut souvent, disons-le, déboucher sur des hybrides stériles, et à ce moment-là, il n'y a pas trop de problèmes. Elle peut déboucher sur des hybrides fertiles qui ne se croisent pas avec leurs parents. Par exemple, dans les cas d'allo polyploïdique, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas de risque de croisement avec les parents, parce que ça fait des hybrides qui ont des jeux de chromosomes qui ne leur permettent pas de passer la méiose. Encore peuvent-ils survivre par reproduction asexuée. Et puis, il y a le cas intéressant d'hybrides qui se croisent avec ses parents et qui le fait effectivement sur toute la zone couverte par ses parents et qui finalement réduit le nombre d'espèces d'une unité. Alors, cela dit, l'hybridation résulte souvent d'un retour en sympatrie et en fait, très souvent, ce qui se passait, c'est qu'à un moment où on repérait les deux espèces, on n'avait pas l'opportunité de voir les hybrides ou bien plus de les laisser ponter les deux stocks génétiques. En fait, ce genre d'observation a conduit à une redéfinition par mère de son concept d'espèce biologique, en parlant de communauté reproductive, ce qui ne change pas beaucoup, de population, reproductivement isolée d'autres communautés, et qui occupe une niche particulière. En particulier, si l'une est en Afrique et l'autre en Inde, eh bien, ça fera le compte, peu importe qu'il puisse y avoir des hybrides, de fait, elles ne se mélangent pas. C'est cette forme de pragmatisme qui, en gros, revient à avoir une définition hybride entre une définition purement biologique et une définition, pour le coup, phénétique, la niche écologique étant un des traits du phénotype finalement, cette définition hybride est bien plus pragmatique et montre qu'on peut ajouter encore une définition à toutes celles qui ont été données. En fait, ce qui se passe, c'est que l'image qu'on peut avoir du cours des espèces dans l'évolution, c'est tout à fait celle de ce genre de réseau hydrique ici, vous voyez, qui est complètement, alors c'est un exutoire d'un lac glaciaire de Nouvelle-Zélande, mais peu importe. On a ici des anastomoses, des tresses entre les lits fluviaux. Si je fais une coupe à un moment, je peux distinguer et même nommer, si je veux, chacun de ces lits. Ces lits, ils peuvent très bien, ultérieurement, se diviser et donner deux lits différents. Ils peuvent très bien aussi, ultérieurement, se refusionner. Et finalement, ce que l'on voit à un moment, ou en faisant quelques mètres, c'est-à-dire des lits indépendants, ça ne nous raconte pas du tout ce qu'on voit sur le long terme. Ce qu'une existence nous montre, c'est le parcours de quelques mètres le long de ces lits. En fait, cette histoire de réseau et d'anastomose va beaucoup plus loin. Il y a aussi des transferts de gènes dans l'évolution. Alors, c'est une idée qui est assez connue, je pense, parce que chez les prokaryotes, eubactéries et archées, on a énormément de tels transferts. Et le résultat, c'est que chez ces organismes-là, ces transferts vont aboutir à deux conséquences. D'abord, ils vont rapidement faire que les descendants d'une même cellule ancestrale vont avoir un contenu génétique différent au gré des gènes qu'ils auront accumulés par des transferts horizontaux, par de l'ADN reçu du milieu. Ici, vous avez un diagramme qui montre, lors de séquençages successifs de souches d'Escherichia coli, l'évolution du nombre de gènes communs à toutes du nombre de gènes accessoires, du nombre de gènes total, pardon. Alors évidemment, on commence avec les deux points superposés lorsqu'on séquence le premier génome. On voit que, en fait, ce qui leur est commun est d'autant plus réduit qu'on accumule de nouveaux séquençages. Et que, par contre, le nombre total de gènes qu'on a trouvés, et qui sont pour la plupart, en fait, des gènes venus de transferts horizontaux, ce nombre de gènes augmente chaque fois qu'on séquence une nouvelle bactérie, une nouvelle Escherichia coli, on trouve le produit d'un nouveau transfert. Donc, rapidement, on voit plus exactement, ces transferts permettent une divergence, facilitent et accélèrent la divergence entre des cellules qui ont un ancêtre cellulaire, structural commun. Elles provoquent aussi des convergences chaque fois que les mêmes gènes arrivent dans différents organismes. Et on a longtemps appelé rhizobium toutes les bactéries capables de rentrer dans les nodosités et de les transformer en engrais vert. Eh bien, en fait, quand on place sur un arbre des œufs bactéries ces rhizobiums, on voit qu'ils se placent à de nombreux endroits. En fait, les caractéristiques qui permettent à une cellule de rentrer dans une légumineuse sont portées par un plasmide et ce plasmide se balade, quitte d'ailleurs des fois à s'intégrer dans le chromosome. Au bilan, chez les prokaryotes, il n'y a pas de doute que ces transferts horizontaux concourent à l'évolution en accumulant rapidement des divergences, mais aussi en créant des fois des convergences. Mais alors les eucaryotes, eux, auraient-ils une logique radicalement différente de ce point de vue-là ? Ben non. Je vais prendre un exemple qui est celui des nématodes phytophages, bon, qui nous coûte assez cher pour le coup. Ces nématodes-là sont clairement des évolutions secondaires au sein des nématodes. En effet, l'état ancestral des nématodes, c'est celui qui est encore présent quant à l'alimentation. Je n'ai pas dit que c'était un fossile vivant, j'ai dit que sa nutrition n'avait pas changé. C'est celui qui est encore présent chez Cynorhabditis elegans. Cynorhabditis elegans, pour le coup, se nourrit de bactéries. Et vous voyez qu'il y a une flopée de gens qui sont microphages, qui mangent des microbes. Et puis, il y a, dans l'évolution des nématodes, plusieurs lignées qui sont devenues parasites de plantes. Ce qui pose problème, parce qu'il faut accéder au contenu des cellules de plantes dont les parois sont autrement robustes que celles des bactéries que l'on peut ingérer et digérer dans le tube digestif. Là, il faut faire des trous. Comment ? Ben avec des enzymes. Et les enzymes de ces nématodes ont révélé une origine évolutive tout à fait originale. C'est un très bon exemple de la signature des transferts horizontaux, pour le coup. Alors, quand on fait un arbre, par exemple, ici, de ces enzymes pectinolytiques de la famille GH43, on voit très bien que les nématodes, bon, ben voilà, ils forment un groupe, hein, et ce groupe dérive des actinobactéries. On sait que ce n'est pas le cas. Les nématodes n'ont pas un ancêtre commun si proche avec les actinobactéries, ce sont des eucaryotes. Mais ce que ça veut simplement dire, c'est que ce gène, à un moment, cesse de raconter son histoire de vie dans des nématodes, mais commence à nous raconter l'histoire de quand il était dans des actinobactéries. Cela veut simplement dire que le gène provient des actinobactéries. Pour le coup, vous repérez que les champignons sont à deux endroits. Alors ça fait un trou hein, dans l'arbre. Il est probable que ces champignons-là ont aussi pris des gènes d'actinobactéries pour s'en servir d'arabinase, donc pour détruire les pectines. Et puis, si vous regardez dans ce groupe-là, qui pour le coup est sans doute alors les gènes qui ont évolué chez les champignons proprement, vous voyez qu'on trouve entrelardés dedans des groupes d'oomycètes. Les oomycètes n'ont rien à voir avec les champignons. Et là encore, il y a eu des transferts horizontaux des champignons vers les oomycètes de ces gènes-là. Bref, les gènes se baladent dans l'évolution, et en particulier, certains se sont baladés des bactéries vers les nématodes et leur ont permis... Et vous voyez toute une liste impressionnante d'enzymes différentes, d'origines bactériennes différentes, leur ont permis de devenir phytophages. En l'occurrence, ce n'est pas très étonnant qu'un truc qui digère des bactéries puisse un jour récupérer des gènes de bactéries. On imagine bien comment l'ancêtre a éventuellement pu faire. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on voit que les transferts horizontaux sont tous, sauf nécessairement insignifiants. Ici, c'est un vrai changement de niche qui s'est opéré. Et ça, c'est à méditer. Transférer un gène d'un organisme dans un autre, ça ne fait rien les trois quarts du temps. Et puis d'autres fois, ça fait quelque chose. C'est pour ça que ça peut être intéressant agronomiquement. Et puis des fois, ça fait une catastrophe, comme un nématode phytophage. Alors comment s'effectuent les transferts ? Je ne vais pas être très détaillé là-dessus. Je voudrais pointer du doigt les virus. On en reparlera sans doute hein, des virus. Ils exécutent un nombre considérable d'infections. Et comme ils sont mal foutus, c'est vrai que souvent, il n'y a pas beaucoup de... C'est des stratégies de type petit air, donc on produit beaucoup de virions pas forcément bien corrigés. Bah, des fois, ils embarquent de l'ADN qui n'est pas le leur. Et donc, entre le fait qu'ils produisent de nombreuses infections et que des fois, ils transportent de l'ADN qui n'est pas de l'ADN viral, donc ils transportent de l'ADN sans conférer de maladie, ce sont évidemment de bons agents. Mais je voudrais quand même vous rappeler qu'on a ici, on parle de transferts qui se font entre des groupes extrêmement différents qui ne partagent pas forcément de virus. Et donc, toute l'histoire n'est sans doute pas virale. D'autre part, quelle que soit l'histoire, que ce soit l'histoire d'un virus ou d'un bout d'ADN issu de la digestion d'un nématode ou autre qui rentre, il y a là un rôle des accidents. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est programmé, ce n'est pas comme la méiose. Ça fait de l'innovation, c'est sûr, ces transferts de gènes, mais ce sont des accidents. Et je trouve que ça restaure bellement dans un sens qui n'était pas le sien, mais ça restaure bellement la notion de monstre prometteur de Goldschmidt, à savoir qu'à un moment, il y a un truc bizarre qui se fait. Les trois quarts du temps, il est trop bizarre pour survivre, mais il y a quelques fois où, effectivement, il a la capacité de survivre. Au-delà de ça, cela montre que même les eucaryotes ont une sexualité qu'on pourrait appeler une parasexualité, mais n'ergotons pas cette définition, une sexualité du type de celle des prokaryotes, à savoir intégrer de temps à autre des gènes venus d'ailleurs. Et du coup, tous les gènes sont ouverts et plastiques, ils sont soumis à des apports, pas organisés par la biologie de l'espèce, certes, pas réguliers, mais structurants éventuellement pour leur évolution. Ceci est rendu possible par le fait d'ailleurs que le code génétique est universel. Mais j'aimerais renverser la proposition en me demandant si, justement, l'intérêt d'avoir un code génétique universel, c'est pas que l'intérêt de garder le code génétique universel pour un organisme donné, c'est pas justement la capacité à pouvoir réutiliser d'autres gènes. Ce que je me demande, c'est s'il n'y a pas régulièrement une meilleure adaptabilité des organismes qui ont gardé le code génétique universel, parce qu'à un moment, ils peuvent reprendre un gène, c'est-à-dire reprendre une histoire sélective d'un coup, plutôt que de l'inventer progressivement par eux-mêmes, par bricolage. En tout cas, là encore, au niveau des génomes, cette fois, on voit très bien qu'à un moment, on voit des génomes distincts, mais on sent très bien qu'il y a des flux entre ces génomes qui sont possibles, et si on laisse le temps couler, un gène, ici une molécule d'eau, n'est pas condamné à rester dans le lit où il est, il pourra changer de lit. Alors, pour terminer, je voudrais faire un point sur l'endosymbiose, qui est un transfert de gènes, mais un transfert de gènes qui est très structurant pour les eucaryotes. Et d'abord, un point un peu général autour de la transmission des symbiontes. Il y a deux façons de transmettre les symbiontes et aucune n'est absolument parfaite. La première est synonyme d'ennui et d'assurance. C'est la transmission verticale. C'est-à-dire qu'il y a beau avoir plein d'autres symbiontes potentiels dans le milieu, vous héritez de ceux de la génération précédente. On est sûr d'avoir des symbiontes, mais ce qui est un peu ennuyeux, c'est que c'est toujours les mêmes et que leur capacité à vous adapter à de nouvelles circonstances, surtout s'il y a eu dissémination entre les deux générations, n'est pas forcément acquise. La transmission horizontale permet de recruter à un moment donné de nouveaux symbiontes, éventuellement d'ailleurs s'ils sont dans le milieu où on arrive, ça peut être la preuve qu'ils y sont adaptés, mais pour le coup, il y a un risque de se retrouver seul. Bon, il n'y a pas de solution idéale, en tout cas il y a deux modalités de transmission et du coup, on peut voir ça comme les cas où, excusez-moi, c'est interverti, les cas où il n'y a pas recombinaison finalement, où les partenaires, les deux génomes, les deux symbiontes restent ensemble. À la recombinaison sexuée près qu'il peut y avoir pour un des deux partenaires, éventuellement. Versus le cas où il y a recombinaison parce qu'on reprend de nouveaux génomes et à chaque génération on fait de nouvelles combinaisons génétiques entre les partenaires. Je suis désolé, il faut intervertir ces deux légendes-là. Bien, il y a donc ces deux modalités de transmission. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on finit par avoir une unité de transmission juxtaposée. C'est-à-dire que les deux partenaires se transmettent ensemble et ne font plus qu'une transmission. Et ça, finalement, ça, cette transmission verticale, elle permet de capturer des gènes que l'on va garder dans le symbionte, mais qu'on va s'associer durablement par le biais de la transmission verticale. Alors, les champions de ça, je pense, ce sont les insectes. Et beaucoup de gens commencent à dire que c'est peut-être pour ça qu'ils sont si divers. C'est que les insectes ont beaucoup utilisé des endosymbiontes pour s'adapter à des niches écologiques parfois tordues, une alimentation exclusive sur une plante, se nourrir de papier sec, bon, enfin, des choses assez impensables qui entraînent des problèmes alimentaires majeurs que beaucoup de bactéries compensent en quelque sorte comme en complément vitaminique ou en complément biosynthétique. Alors, la liste est très longue des groupes d'insectes qui sont associés à une autre liste très longue de bactéries. En plus, le fait de coévoluer avec une bactérie crée plein d'incompatibilités entre le noyau et les bactéries, et ça crée des bonnes barrières pour la spéciation. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans le lien entre la fréquence des endosymbioses chez les insectes et le fait qu'ils sont, en termes d'espèces, entre guillemets, si numériquement abondants. Bon, en tout cas, il y a des exemples plus simples. Et pour prendre par exemple le maïs, parce que j'imagine que vous êtes tous d'accord avec moi que c'est le maïs, j'ai besoin de votre assentiment là. Il n'y a pas de piège, hein. Moi je pense aussi que c'est le maïs, mais dedans, pour le coup, il y a des mitochondries et des chloroplastes. Et vous savez comme moi que ça, ce sont d'anciennes bactéries qui sont en endosymbiose, comme en témoignent d'ailleurs les deux membranes qui les limitent, qui sont en endosymbiose depuis très longtemps et en transmission verticale, maternelle ou paternelle selon les cas. Et j'insiste là-dessus, parce que c'est souvent maternel, mais pas nécessairement. Et dans le cas du maïs, on peut très bien aller chercher l'ADN qui est dans les chloroplastes ou dans les mitochondries, le faire parler et lui faire avouer sa parenté respectivement avec des cyanobactéries ou avec des alpha-protéobactéries. Donc, le maïs, là, c'est un petit peu perturbant, parce qu'en fait, il y a trois positions phylogénétiques quant au contenu du maïs. Alors, moi, ça ne me gêne pas de continuer à parler du maïs. Mais tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des bactéries, on a même donné leur nom, vous voyez. Quand on a vu des bactéries dans les insectes, on a choisi de distinguer, de dire, on va donner un nom aux bactéries, puis un nom aux insectes. Quand on a des anémones de mer, comme celles-là, qui transmettent leurs algues endosymbiotiques, par les ovules, on donne un nom à l'algue. Hein. On dit c'est des symbiodiniums. Bon, alors, la taxonomie est pourrie, mais c'est un des groupes de symbiodiniums. Quand on voit des lichens, on donne un nom aux champignons, puis l'algue a un nom, qu'on oublie souvent, mais elle a un nom. Hein, là, c'est des Trebuxia, et la taxonomie n'est pas très bonne non plus, mais du groupe A. Bon. Donc, là, on a choisi de bien repérer deux espèces. Mais là, non. On a décidé que ce serait le maïs. Et on ne va pas donner de nom à toutes les mitochondries, à tous les chloroplastes. Bon, moi je trouve ça intéressant, parce que ça montre encore, et d'une façon qui est peu soulignée je trouve, l'arbitraire de la notion d'espèce. Là pour le coup on décide que c'est plus opérationnel, et je suis le premier à être d'accord, que de dire que ça c'est le maïs, et pour le coup c'est un consortium symbiotique qui reçoit un nom. Alors évidemment maintenant les membres n'existent plus séparément, mais séparez-moi la lèpre des malades. Hein. Je veux dire, la biotrophie obligatoire ça existe partout, hein. Il y a même dans des espèces bien reconnues. Ensuite, clairement, ça permet, cette capture génique permet une adjonction durable de propriétés prokaryotes dans les eucaryotes. Ça, c'est l'autre aspect, c'est que là, j'ai rassemblé finalement, et en acceptant que c'est une espèce, je scelle bien mon acceptation de ça, j'ai rassemblé des gènes d'origine évolutive différente. Et puis ça montre une certaine plasticité au niveau génomique, c'est-à-dire que le génome peut s'adjoindre de façon satellite des espèces d'équivalents, enfin le génome nucléaire peut s'adjoindre des équivalents des plasmides pour le chromosome bactérien que sont ces génomes bactériens. Alors là encore, on voit très bien que finalement, on va trouver réunies des choses qui ont des origines évolutives indépendantes et qui vont se retrouver réunies à un moment. Il y a là encore cette logique de réseau où des gènes qui sont séparés à un moment finissent par se retrouver. Mais en fait, la capture génique va plus loin dans le cas de l'endosymbiose. Elle va beaucoup plus loin, et je voudrais terminer les exemples en parlant un tout petit peu de nouveau des mitochondries et des plastes et de la façon dont certains de leurs gènes se retrouvent dans le noyau. Historiquement, la validation de l'origine endosymbiotique des mitochondries et des plastes a été très difficile parce qu'il n'était pas possible de cultiver les plastes et les mitochondries. Ou plutôt, de nombreux chercheurs en ont été capables avant de découvrir ou de se faire expliquer par des collègues, ce qui était encore plus humiliant, que c'était des contaminations. Et en fait, la raison, c'est que les plastes et les mitochondries, depuis longtemps, ne peuvent plus se passer de la cellule hôte, un peu comme les virus. Les plastes et les mitochondries, donc, ne peuvent plus se passer de la cellule hôte, et ils ont un tout petit génome qui code au plus une centaine, dans le cas du plast, des protéines, qui sont au nombre de 2400 dans ce cas-là, des 2400 protéines donc nécessaires au fonctionnement du plast. Et donc, les plastes nécessitent non seulement des nutriments, mais aussi des imports de protéines. Interrogeons-nous deux secondes sur l'origine des gènes qui, dans le noyau, codent ces protéines. Alors, dans cet exemple, qui est celui d'Arabidopsis thaliana, vous voyez qu'il y a plus de 25 000 gènes, dont un petit dixième va s'occuper de synthétiser des protéines qui fonctionnent dans le plast. D'où viennent ces gènes? Alors, 1300 d'entre eux sont issus de transfert à partir du plast. C'est le cas d'une des sous-unités de la Rubisco, par exemple. Il y a de multiples autres exemples. Il y en a 1300, pour le coup. Certains, d'ailleurs, sont devenus des familles multigéniques dans le noyau après être arrivés. Et donc, ça me fait une partie de ces protéines. Ensuite, j'ai 1000 autres gènes qui étaient des gènes d'origine nucléaire. D'ailleurs, ils peuvent être sortis de la mitochondrie. Mais ça, c'est pas grave. C'est des gènes qui sont dans le noyau et qui, secondairement, dont la protéine a secondairement pris un rôle dans l'organite. Alors, l'intérêt de cette histoire, c'est qu'on voit très bien que du coup, il y a dans le noyau des gènes d'origine cyanobactérien. et symétriquement, on pourrait le montrer, des gènes d'origine mitochondriale, mais là, la démonstration est un peu plus difficile à faire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que des gènes qui sont passés pour refaire des protéines pour les plastes, il y a également d'autres gènes qui sont passés et qui ont acquis des fonctions ailleurs dans la cellule. Entre nous, il y a aussi sans doute beaucoup de gènes qui sont passés, qui ne sont pas restés. Mais bon, il y a 3000 gènes qui ont été réaffectés à d'autres fonctions. Je cite pêle-mêle le phytochrome, par exemple, qui perçoit la lumière dans le cytosol des plantes, ou encore les cellulose synthase de la membrane plasmique qui synthétise la cellulose et qui sont sans doute en fait un réemploi des protéines qui synthétisaient la paroi de la cyanobactérie ancestrale du plaste. Bon, donc finalement, j'ai ici tout un tas de gènes qui sont arrivés dans le noyau et la coexistence longue liée à l'endosymbiose favorise les transferts de gènes en ce qu'elle rapproche les deux compartiments. Alors, un point que je n'aborde pas, mais qui est vraiment intéressant, c'est de savoir pourquoi les transferts n'ont pas lieu dans l'autre sens, pourquoi après tout le génome du plaste ne gagne pas des gènes, et la réponse est compliquée, c'est sans doute une histoire de sélection, mais il n'y a pas d'impossibilité technique, on connaît quelques exemples de gènes nucléaires passés dans les organites. Voilà, mais en tout cas, j'ai fait un noyau chimérique, et pour le coup, voilà aujourd'hui le pourcentage d'origine cyanobactérienne dans différents organismes photosynthétiques, vous voyez que le chiffre avoisine 10%, il n'est pas négligeable, le noyau est bel et bien une chimère qui résulte de ces transferts de gènes à la suite de l'endosymbiose. Donc finalement, à la capture d'un génome entier s'ajoutent des transferts internes à la cellule, et de nouveau, voilà quelque chose qui contribue à cette espèce de sexualité lente des eucaryotes et à la plasticité de leur génome. Je reviens un instant sur ce mot de sexualité lente que je vous propose à propos de ces acquisitions de gènes venues d'un peu partout et donc notamment de l'intérieur de la cellule. J'appelle ça lent parce que ça s'oppose au rythme frénétique de la fécondation-méiose, qui là est un ballet perpétuel de nature à recombiner la différence, mais en allant puiser dans un stock, dans un répertoire beaucoup plus limité évidemment que celui des transferts de gènes, et qui pour le coup a longtemps dissimulé la seconde nature de la sexualité eucaryote, qui est cette capacité, comme chez les procaryotes, à récupérer des gènes dans le milieu. Ça, c'est une propriété universelle, pour le coup. Et elle s'ajoute à la sexualité méiotique et fécondatoire. Alors, c'est de la conclusion dont il s'agit, là, même si elle n'est pas de la bonne couleur. J'ai quand même rajouté une chose importante à ce que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est cette notion d'horizontalité. Et cette notion d'horizontalité, elle est très destructrice. D'abord, elle fait de tous les organismes qui nous entourent des chimères, c'est-à-dire qu'ils proviennent de choses qui étaient à l'origine d'espèces différentes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans cette représentation en arbre, on sent bien que finalement, elle ne va pas pouvoir s'appliquer au génome. Et ça, c'est une chose importante. Ça ne veut pas dire que la représentation en arbre n'est pas valable. Dans beaucoup de cas, elle est valable. Et d'ailleurs, même, elle a été opératoire pour moi, tout à l'heure, pour démontrer qu'un gène avait été transféré d'actinobactéries vers des nématodes. Mais simplement, cette représentation du monde n'encapsule qu'une partie des phénomènes observés. Elle marche très bien chez les vertébrés, finalement, par exemple. Mais elle n'encapsule pas les types d'événements qui font en fait des anastomoses. Et quand il commence à y en avoir beaucoup, le dessin de l'arbre devient gribouillis, les hybridations, certes entre des organismes qui ne sont pas très éloignés, les transferts de gènes, et là toutes les sources sont bonnes, et les endosymbioses, et là aussi, pour les eucaryotes au moins, toutes les sources sont bonnes. Finalement, l'évolution est faite de divergence, d'extinction, mais aussi de fusion, et je reviens sur cette idée du réseau, à toutes les aisselles, celle des génomes, celle des espèces, on a cette évolution en réseau. Finalement, ce qui compte ici, c'est de voir que les choses qu'à un moment on voit comme séparées ne le sont pas nécessairement durablement. D'ailleurs, si je peux filer la métaphore, tout ça repose un peu sur la même nappe phréatique. Chacun de ces lits ici n'est pas rempli d'une eau vraiment indépendante. Ce que je veux dire par là, c'est que, et pour conclure en ouvrant une perspective, et je ne pense pas ouvrir une perspective si nouvelle que ça en fait, hein, je pense qu'il est temps maintenant de se débarrasser de la notion d'organisme, qui sont aussi des façons de voir des finitudes là où, en fait, il n'y a que des possibilités de mise en réseau. L'organisme, la vision organismale de la biologie, elle nous a été sans doute soufflée par une vision philosophique basée sur l'individu. Et donc, on a transporté l'individu qu'on voyait dans nos sociétés en organisme, en biologie. Mais, et ça, ça a été heuristique. Hein. Je veux dire, la biologie de Claude Bernard, on lui doit beaucoup. Mais je ne pense pas, moi, que les organismes existent. Je pense, plus exactement, qu'ils ne sont qu'une représentation du monde, et qu'une autre représentation du monde, c'est que c'est un réseau d'interactions. Et la perspective, c'est de voir les interactions et de ne perdre la focale, ou de substituer à la focale sur les organismes, la focale sur l'interaction. L'un n'existe pas sans l'autre. Une toile d'araignée, c'est aussi bien un système où se croisent des fils que les fils entre ces points-là. Mais l'heuristique de l'organisme, c'est un peu une éponge qu'on a déjà tordue. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas la tordre encore, hein, et extraire encore beaucoup de choses, mais aujourd'hui, peut-être que c'est la perspective de l'interaction qui est une perspective nouvelle pour la biologie. Merci.
Bien. Quelques questions en ce début d'après-midi. Moi, j'avais une question sur cette plasticité du génome. Tu as présenté la plasticité de la plasticité des génomes, mais la plasticité aussi des mécanismes du vivant, c'est intéressant. Tu ne pourrais pas illustrer des mécanismes qui sont réutilisés à différents endroits, dans différents domaines? Ça fait aussi partie de la plasticité.
Ah oui, alors oui, ça renvoie à la discussion de tout à l'heure, là, quand on parlait du bricolage évolutif, c'est cette idée que, effectivement, ce que fait une structure à un moment ne détermine pas du tout ce qu'elle fera demain, et qu'effectivement, on peut très bien faire un flagelle avec une perméase un peu élaborée, ou l'inverse. Effectivement, ça aussi, ça revient à dire qu'une structure n'est pas mariée à une fonction. Et il y a aussi une certaine plasticité de ce point de vue-là. Bon, c'est pas un point que j'avais abordé.
En accord avec...
Oui, c'est moi qui ai le micro. Merci Marc-André pour ta très brillante démonstration. Effectivement, les interactions, on peut noter ça, mais il y a un mais, c'est que ta présentation se positionne dans une couche de temps synchrone, un petit peu comme Ernst Mayr en 1942. On travaille sur l'espèce ou sur l'individu ici et maintenant. Et d'ailleurs, tu t'es positionné d'ailleurs comme dans une perspective pragmatique. Néanmoins, en biologie, pour une théorie complète de la biologie, on a besoin de la profondeur du temps. Et les interactions, certes, on peut les mesurer, mais quid de la définition de l'organisme, de l'individu et de l'espèce dans la profondeur du temps? Alors évidemment, s'agissant de l'espèce, on a déjà trouvé une réponse. Une espèce, finalement, sur le plan théorique, c'est un flux de génération non divisé. Quand ça se divise longitudinalement, on change de nom d'espèce par convention. S'agissant de l'individu, il y a des définitions qui circulent comme des trajectoires ontogénétiques, ce qui permet d'inscrire les interactions dont tu parles dans une tranche de temps. Parce que si tu ne mets pas ça dans une tranche de temps, tu ne tiens pas compte véritablement de l'évolution. Et c'est peut-être la dimension qui va manquer dans ton exposé, même si avec les anostomos qu'on voit sur cette image, on voit bien qu'il y a un temps qui passe et qu'il y a bien un moment où il va falloir décider quel est le début d'un individu et quelle est la fin d'un individu, quel est le début d'un organisme, quelle est la fin d'un organisme. Donc les définitions synchroniques, elles sont pragmatiques, mais en biologie, elles ne sont pas suffisantes. Il faut évidemment des définitions diachroniques pour pouvoir inscrire nos cadres taxonomiques dans l'évolution.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je ne dis pas que demain, je ne vais pas continuer d'utiliser organisme et individu dans les discussions que j'aurai. Hein. Simplement, ce que j'appelle de mes voeux, c'est une vision différente qui exclut finalement, enfin, qui se place au-dessus de la couche individuelle et même à un moment donné. Bon, il y a des approches, par exemple, avec la théorie des réseaux d'interaction en écologie. Enfin, ce n'est pas vraiment une théorie, mais c'est une ligne d'investigation. On fait je prends un exemple, la liste des fleurs qu'il y a dans le nord de la France, la liste des insectes qu'il y a, puis on fait des traits. Et puis, on voit les propriétés de ce réseau d'interaction. Alors, on en tire toutes sortes de choses intéressantes sur sa résilience par rapport aux perturbations, sur est-ce que c'est un réseau dominé par des interactions négatives ou positives, parce que la topologie n'est pas la même. Mais on peut aussi aller dans le temps. Et alors, je suis d'accord, hein, il ne faut pas... au contraire, on est le produit d'une histoire et la seule chose dont on est sûr, c'est ce qui s'est passé. Enfin, dont on puisse être sûr, c'est ce qui s'est passé. Ce qui se passera, c'est moins sûr. Et on peut flanquer ce réseau d'arbres phylogénétiques, l'arbre phylogénétique des fleurs, l'arbre phylogénétique des insectes, et commencer à voir en masse, sur l'ensemble des interactions ayant persisté, quelles sont les propriétés de co-spéciation, de répulsion de partenaires, entre lignées proches. Donc voilà des approches où les individus n'existent plus. Et les espèces, c'est juste un petit point, mais ce qui compte, c'est les fils entre eux, puis les arbres phylogénétiques qu'il y a sur les côtés. Voilà le genre de choses que je veux dire, c'est qu'il y a un espace heuristique pour ce genre d'approche. Mais ça n'empêche pas de continuer à faire de la biologie des organismes.
Et du coup, en accord avec cette vision un peu déconstruite du vivant et dans la vue dans des petites tranches de temps, mais pas complètement instantanées, est-ce qu'il y a une définition de l'espèce qui soit à la fois structurée et qui prenne en compte, enfin qui assume la part d'arbitraire qu'il y a dedans, qui prenne juste en compte une série, par exemple un ensemble de gènes qui soit arbitrairement labellé par un nom qu'on donne un nom d'espèce, et du coup dans lequel on peut, une espèce de boîte dans laquelle on peut mettre n'importe quel objet biologique. Est-ce que ça a été établi de définir une espèce juste par un ensemble soit de gènes, soit de traits, soit de n'importe quelle autre feature qui puisse être formalisée?
Je ne comprends pas très bien la question. Si l'idée c'est celle du barcode, ben, c'est fait. Mais là c'est simple, hein, le barcode. Bon.
C'est-à-dire?
Alors, de repérer les espèces par la séquence d'un gène de référence pour un groupe.
Non, pas d'un seul gène, juste un ensemble de gènes.
Alors ça, j'avoue mon ignorance, il y a peut-être des approches qui ont été faites en ce sens-là. Mm-hmm. Peut-être on en parlera demain, d'ailleurs, parce qu'il sera encore question d'espèces, il y aura sans doute de meilleurs spécialistes de l'espèce que moi. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une question qui traîne aussi derrière ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même un cœur de génome, d'accord, qui pourrait quand même permettre de caractériser l'espèce. Ça, c'est une question assez ouverte. Vous avez vu sur les Escherichia coli que c'est en train de... Plus on a des Escherichia coli, moins il y a de cœur.
Oui, ça, on sait qu'au fond, elle n'a pas de substance, cette notion de cœur.
Par contre, on peut quand même faire des arbres d'ADN ribosomaux. Oui. Eux, ils bougent peu. Voilà. Je ne sais pas si ça aide à répondre à la question.
Un peu.
On peut signer les espèces par leur ADN ribosomaux. Ça ne caractérisera pas vraiment la diversité de ce qui constitue leur génome. Mais au moins, ça récapitule des parts entrées entre les sacs qui contiennent les gènes. Mmh. On peut appeler les organismes.
Merci pour cet exposé passionnant. À propos de la difficulté de représentation avec les arbres, il y a un des domaines où ça a été particulièrement crucial, c'est chez les phages. En fait, à un moment, la commission taxonomique des phages a renoncé, ils ont posé un moratoire, ils ont dit on arrête de classifier tant qu'on n'a pas trouvé une manière de faire, parce qu'il y avait tellement d'échanges entre les phages qu'ils n'arrivaient plus à les caser dans des arbres. Et il y a eu un appel à l'époque d'une des personnes qui travaillait dans cette communauté pour faire des représentations réticulées, c'est-à-dire de représenter la relation sous forme de réseau. Donc ça va tout à fait dans le sens que vous dites. Et il y avait une doctorante dans mon laboratoire qui a, pendant sa thèse, développé des méthodes de représentation réticulée qu'ils ont appliquées à l'ensemble de tous les phages sur base du nombre de gènes qu'ils partagent, etc., etc. Et par ailleurs, je voudrais faire une mise en garde par rapport à un autre aspect que vous venez de dire, c'est sur la vision, une autre approche des visions réseau, qui est le fait de faire des grands catalogues de, par exemple, toutes les plantes, de tous les insectes, on met des petits traits entre les deux et puis on en tire des propriétés générales. Et je voudrais justement poser une analyse spécifique du réseau d'interaction en tant que, où on regarde chaque élément et la façon dont il interagit. Et ses propriétés générales, parce que c'est une mode qui a été lancée en 2000 par des gens qui venaient de la communauté de physique statistique, hein, Barabasi, qui a lancé ça. Donc c'est des gens qui venaient de l'analyse des réseaux sociaux, d'Internet et tout. Et en 2000, ils ont dit, les réseaux métaboliques se comportent aussi comme ça. On a des lois universelles, les lois de puissance, lois de petit monde, qui font que dans tous les réseaux, que ce soit les réseaux métaboliques, les réseaux protéiques, les réseaux sociaux, les réseaux de terrorisme et tout, on a toujours la même chose. Et ça a lancé tout un courant énorme en bioinformatique notamment et en analyse des réseaux. Et en fait, dans le cas du métabolisme, par exemple, là, on a démontré avec la même personne, d'ailleurs, Gypsy Lima Mendes, que c'était complètement faux, c'est-à-dire que la manière dont ils analysaient les propriétés de petit monde, c'est-à-dire que pour passer d'une molécule à une autre, il fallait en moyenne 3 réactions, était complètement biaisée parce qu'ils n'avaient pas prêté attention au fait que dans ces réseaux, l'eau n'est pas un nœud intermédiaire comme les autres, et donc leur transformation... comme ils appliquaient des maths sans savoir ce qu'il y avait comme biochimie derrière, ils transformaient du glucose en éthanol en deux étapes, parce qu'il y avait une réaction qui transformait le glucose en eau et une autre qui transformait l'eau en éthanol. Et comme dans les milliers de réactions, il y a toujours moyen de passer par l'eau ou l'oxygène, etc. Donc on a démontré que c'était complètement faux. Et du point de vue de la résilience, justement, il disait, mais ces propriétés qu'on observe aussi dans les réseaux métaboliques de petits mondes, etc., ça permet de résister à des délétions aléatoires, etc. Et en fait, c'était complètement faux, parce qu'on peut... vraiment supprimer les molécules, ce qu'on peut faire, c'est supprimer les enzymes. Et donc, il y avait une confusion totale entre l'objet qu'ils observaient, qui était le nombre de connexions d'une molécule, et l'objet sur lequel les mutations peuvent porter, qui sont les enzymes. Enfin, je ne peux pas élaborer ici. Mais donc, il faut rester très méfiant vis-à-vis de cette grande mode qu'il y a eu entre 2000 et 2010 sur la théorie des réseaux ou des règles universelles. C'est exactement ce que Barabasi disait. Il y a une nouvelle science, la science des réseaux, avec ses règles universelles, ses propres paradigmes, etc. Donc, il faut vraiment appliquer ça au cas par cas en ne perdant pas de vue l'objet, la particularité de l'objet qu'on étudie.
Enfin, mais alors, je suis parfaitement d'accord avec ça. Alors, d'abord, ce n'est pas parce que les réseaux sont intéressants qu'on peut faire n'importe quoi et qu'on peut mal travailler. Et là, ce que vous pointez du doigt, c'est effectivement que le travail était un peu naïvement fait. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on crée cette nouvelle façon de voir les choses ou des façons de voir les choses en réseau. Je vous envoie notamment aux travaux de Lopez et Baptiste à Paris 6. Là, ils font des trucs assez marrants. Ce n'est pas parce qu'on crée ça qu'il faut oublier tout ce qui s'est passé avant ou tout ce qui continue à se passer pendant. Il faut appeler une forme d'interdisciplinarité au sein de la biologie, il faut appeler effectivement à plus d'échanges et à ce que toutes les données soient prises en compte. Je suis parfaitement d'accord qu'un certain nombre des premiers travaux étaient moins intéressants par les conclusions que parce qu'ils réveillaient l'audience à propos d'un nouvel outil. D'accord. Dans mon propre domaine, les interactions plantes-champignons, ces réseaux ont été appliqués et au début, ça a été un peu merdique. Et maintenant, on commence à faire des trucs un peu sympas, mais justement en croisant les gens. Mais vous savez, les premières phylogénies qui montraient le lien des plastes aux cyanobactéries, si on les regarde, on est mort de rire. Hein, parce que ça a été fait par des gens qui arrivaient à faire le traitement informatique qui était assez acrobatique, qui n'avaient aucune idée de la réalité biologique qui était dessous. Donc, ça, c'est l'histoire de la science. Et quand vous dites « ça aboutit à des choses fausses », oui, bah, on aboutit qu'à des choses fausses. Pour certaines, on sait qu'elles le sont. Pour les autres, on attend l'étape suivante.
Oui, bonjour. Péric Pitrou, je suis anthropologue. Donc j'ai une remarque qui vient du champ des sciences sociales, puisque entre la présentation de ce matin qui abordait la question de l'auto-organisation en mentionnant l'idée qu'il y avait une coordination et l'idée que vous exposez qu'il y a aussi une interaction qu'il faut étudier, ça fait écho à beaucoup de recherches actuelles en anthropologie et en sociologie qui cherchent à aborder le vivant à partir justement de cette perspective pragmatique. Et je rejoindrai les deux remarques précédentes qui, évidemment, le problème dans ce cas de figure, à mon avis, c'est de voir comment est distribué. Alors, si on abandonne l'idée d'individu et d'organisme, et effectivement, tout plaide pour qu'on parte dans cette direction-là, quels sont les moyens heuristiques pour décrire, en fait, les interactions et la coordination? Parce que la coordination, elle peut servir à synchroniser des éléments qui vont, par exemple, comme le banc de poisson, être engagés dans les mêmes mouvements, ou bien elle peut servir à synchroniser des activités qui sont complémentaires et différentes les unes des autres. Donc, en fait, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut analyser, dans l'interdisciplinarité de la chimie jusqu'à même, pourquoi pas, l'échelle humaine, la manière dont se distribuent des, alors pas des individus, pas des organismes, mais des échelles d'agentivité. Et est-ce que il est possible de, voilà, comment est-ce qu'on pense la continuité et la discontinuité sur un cadre qui, parce que le danger de la notion de réseau, c'est évidemment d'instaurer une forme de dépassement de l'individu dans une homogénéité. Or, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est comprendre justement qui est des points, alors peut-être que Simon Don aide à penser ce genre de situation, il y a des points de bascule, il y a des effets d'échelle, il y a des effets de spécialisation, et depuis ce matin, on en a eu de nombreux exemples. Donc voilà, c'était un commentaire, je n'ai pas de questions, mais je pense qu'il y a un vrai point à travailler collectivement sur cette question de l'agentivité.
Oui, alors, bon, il faut aussi explorer la voie des interactions. Ne faisons pas l'erreur qu'on a fait en n'explorant que celle des entités et pas ce qui les reliait. Je pense qu'il faut continuer quand même une exploration dans toutes les dimensions. Hein. Il ne s'agit pas de couper les crédits de la biologie des organismes, ce n'est pas l'idée. Après, je voudrais profiter d'autres questions pour rebondir sur quelque chose moi, qui me tient beaucoup à cœur. Plus je réfléchis, je trouve que j'ai un petit frère qui est linguiste, avec qui on parle beaucoup, plus je réfléchis, plus je suis étonné de voir. Alors, ne vous fâchez pas de ce que vous allez entendre. À quel point, finalement, les objets des sciences humaines sont biologiques? Alors, je n'ai pas dit que la biologie va expliquer toutes les sciences humaines, parce que sinon, on ferait l'erreur qui était pointée dans la question précédente, qui est d'appliquer un bon outil de façon violente sans regarder les objets. D'accord? Donc, je ne suis pas du tout en train de dire que demain, il faut transformer les chairs de sciences humaines en chairs de biologie. Mais je pense que dans le dialogue, il y a vraiment des choses extraordinaires à faire. et qui amèneront aussi de notre côté à revoir des outils.
Juste une réponse du tac au tac. Je pense surtout ce qu'on entend, et je pense que les deux sont valables, c'est que le vocabulaire avec lequel vous décrivez différentes échelles de phénomènes est complètement imprégné de représentations sociologiques. Mais bon, on peut continuer le débat plus tard.
Dont acte. Oui, ça c'est sûr.
C'était un tout petit commentaire en lien avec le fait que c'est la mission interdisciplinarité qui organise donc cette présentation. Pour réussir à discuter entre chimistes et biologistes sur cette notion non vivant vivant, effectivement, moi j'ai toujours été embarrassé par individu-espèce, parce que c'est des concepts qui, vu du point de vue d'un chimiste, je sais ce qu'est une molécule d'éthanol, et ton éthanol, c'est mon éthanol aussi. Donc du coup, cette capacité à identifier un certain nombre de points durs qui nous permettrait de formaliser un peu mieux justement cette transition depuis non-vivant en vivant, en éliminant des deux côtés un certain nombre de représentations du manifeste, qui sont une manière de voir le réel, mais comme tu l'as dit, je pense que cette vision plus de l'ordre d'interaction, processus, etc., est beaucoup plus commune de ce point de vue aux deux champs que ne l'est cette barrière avec d'un côté espèce individu, puis de l'autre, ce qu'est la réaction chimique. C'est juste un commentaire. Je ne peux qu'encourager, en tout cas, à disséminer au maximum ce discours.
Oui, et c'est pour ça que je citais Linné. Là. On voit bien qu'il y a des héritages de l'histoire qui sont très perdurants et qui peuvent éventuellement bloquer l'accès à des objets communs ou à des questions communes entre disciplines. Je suis heureux d'apprendre que l'espèce en est une. Je me souviendrai et je saurai qui citer à ce propos.
Donc, pour finir cette session, on a donc une partie qui s'appelle droit du